Les plans d'Adeline, c'est une installation paysanne à 900 mètres d'altitude à Saint-Martin en Vercors. Adeline Anglaret se consacre depuis 2024 à la production de plantes annuelles potagères, aromatiques ou florales et de vivaces, ornementales, botaniques et sauvages des Alpes. Nous sommes allés la rencontrer sur place début avril pour en apprendre plus sur sa démarche, puisqu'elle propose des variétés de plants bio qui sont tous adaptés au climat montagnard du Vercors. Bonne écoute!
Déjà, merci beaucoup de venir me rencontrer. Donc, c'est une activité que j'ai démarrée en 2024. Auparavant, j'étais salariée chez des maraîchers qui sont sur le Vercors aussi, Carla et Étienne à Rancurel, que je recommande. Et du coup, Séverine et Christophe, qui étaient maraîchers ici à Saint-Martin, pour raisons personnelles, m'ont proposé d'utiliser leur outil de travail qu'ils n'utilisaient pas. Donc voilà, en 2024, j'ai lancé un projet que j'avais depuis quelques années, d'avoir ma propre production d'annuelles potagères, aromatiques et fleurs pour les potager des particuliers aux alentours. Et puis peu à peu, j'ai commencé à proposer aussi des vivaces, des aromatiques et aussi des fleurs, donc qui restent d'une année sur l'autre, contrairement aux annuelles, parce que ça m'intéresse beaucoup et puis ça a vraiment sa pertinence sur le Vercors. À l'altitude où on est, avec les froids qu'on a, c'est aussi beaucoup plus simple de faire perdurer des massifs de vivaces. Voilà.
Du coup, il y a des questions de semences, de graines. Là, tu me disais qu'il y a encore quelques jours, il faisait moins 10 la nuit. Est-ce que c'est les mêmes variétés qu'on va retrouver en bas ou dans d'autres régions? Comment ça se passe? Comment tu choisis tout ça?
C'est sûr que dans ces métiers-là, on peut décider beaucoup aussi de communiquer sur comment on source la semence. Et en effet, moi, c'est mon parti pris d'expliquer où j'achète la semence. Déjà, je ne la produis pas moi-même, ou alors vraiment, c'est très anecdotique, parce que c'est un métier en soi de faire de la semence biologique, qu'on appelle population ou paysanne, pour en reparler. C'est un métier qui est difficile, ou de gérer les cycles d'implantation et de récolte, et en plus de faire de la petite pépinière à côté. Sur le Vercors, il y a un gros enjeu d'avoir de la semence adaptée à la montagne, mais il est des fois très difficile de finir complètement les cycles pour les annuelles en tout cas, et d'avoir du coup de la semence viable. Et pour faire un travail cohérent, il faut aussi avoir suffisamment de pieds mères en fonction de ce qu'on produit, si les plants sont allogames, etc. Il y a un nombre de pieds mères à avoir pour vraiment proposer une semence qui est stabilisée, qui donne ce qu'on a envie, qui n'a pas une possibilité de dégénérescence parce que trop pauvre génétiquement. Et du coup, pour l'instant, je laisse à des collègues semenciers, semencières, paysannes, paysans de le faire pour moi. Et c'est au fil du salariat et des stages que j'ai commencé à avoir des noms du coup de semenciers. En bio, il n'y en a pas non plus tant que ça. On tourne tous un peu avec les mêmes. Je choisis quand même des tailles relativement petites. C'est souvent des GIE, c'est-à-dire des regroupements de paysans, paysannes, semenciers, semencières. Ils se regroupent pour faire la commercialisation en commun. Ils se répartissent les variétés et les espèces à produire. Donc, on a l'assurance que quasiment tout va dans la poche de ces paysans, paysannes, mais en ayant l'avantage d'avoir beaucoup de choix, un prix qui est quand même abordable parce qu'ils se sont regroupés, etc. Voilà. Et sinon, je commence aussi à travailler avec un ami qui s'appelle Johannes, qui est installé depuis plusieurs années à Châtillon-Saint-Jean. C'est un producteur professionnel de semences. Il vend d'ailleurs à ce type de regroupement, notamment à Germinance, Semaille, mais qui est plus loin, qui est en Belgique. Il y en a des plus proches. Là, on commence à essayer de travailler ensemble. On aimerait bien à terme faire presque comme, pas une AMAP, mais il sait que tous les ans, moi, j'ai besoin de tant de graines de ça, tant de graines de ça, et que sur certaines variétés, lui, il n'est pas sur très grosse surface. Du coup, ça lui permettrait de s'organiser et ça permettrait d'augmenter la résilience du territoire et de sécuriser des semenciers et semencières, en sachant qu'il y a des pros locaux. Parce qu'en vendant qu'aux particuliers, c'est quand même pas facile d'en vivre. Voilà. Donc, je source comme ça pour les semences annuelles et vivaces. Et puis, il y a une petite partie de ma production qui émerge cette année, qui est de la sauvage. C'est-à-dire qu'on va collecter la semence en sauvage, évidemment, sur des espèces qui ne sont pas protégées, parce qu'on n'a pas le droit. Ça paraît contre-intuitif des fois, mais non, les espèces protégées, il ne faut absolument pas y toucher, sauf les centres botaniques qui ont le droit des fois de faire des prélèvements. Donc, on a des listes d'autorisation. On travaille, je dis on, puisqu'on est plusieurs horticulteurs, horticultrices, en partenariat avec le Centre botanique national alpin, également Gentiana, qui est une grosse association botanique du Dauphiné. Donc, qui nous aide en fait à déjà aller en milieu sauvage, reconnaître, parce que c'est extrêmement difficile d'être sûr de l'espèce et de la sous-espèce. Puisque dans le cahier des charges de ce genre de production, donc il y a un cahier des charges très précis qui a été élaboré par l'Office français de la biodiversité et ils ont créé une marque puisqu'ils n'avaient pas l'aval du gouvernement pour que ça soit un vrai label. Donc c'est une marque qui s'appelle Végétal Local, donc qui est l'équivalent d'un label et qui certifie qu'on a été cherché uniquement en sauvage sur des espèces qui ne sont pas protégées, qui sont autorisées. Qu'on a prélevé que sur un certain pourcentage des individus, mais aussi un nombre minimal pour la variance génétique. Voilà, c'est vraiment tout à fait cohérent dans comment on prélève la ressource en sauvage et aussi après qu'est-ce qu'on assure en fait dans les plantations. C'est surtout utilisé pour les haies champêtres avec les gros programmes et pour les agriculteurs agricultrices qui réimplantent des arbres pour éviter qu'on plante n'importe quoi, notamment avec de la semence qui peut venir de l'autre bout du monde. Or, ça peut être la même espèce, mais pas le même écotype, et ça peut être catastrophique. Donc, c'est très important de savoir à qui on achète et comment sont sourcées les semences sauvages. Voilà.
Et alors, si tu devais nous donner un exemple de plante sauvage que tu as été récoltée, identifiée, et puis que tu produis ici, ce serait quoi ?
Il y a un peu deux catégories. Il y a celles qui ont été collectées par le Centre botanique national. Et du coup, ils me donnent la semence pour lancer une filière qui n'existe pas. Ils nous aident pour le moment. À terme, il y aura peut-être des collecteurs, collectrices et on leur achètera la semence. Ce serait bien. Et donc, par exemple, ça peut être, en fait, sur les vivaces, contrairement aux ligneux, aux arbres, ils ont essayé d'élaborer avec d'autres professionnels un catalogue d'espèces et sous-espèces, entre guillemets, sexy, parce que c'est pour les particuliers, les jardins, les ronds-points, etc. Et on a tellement l'habitude de choses assez flashy, beaucoup de fleurs, mais je comprends, moi aussi, si on a l'impression que c'est de l'herbe, on a un peu du mal à comprendre pourquoi on a mis en place ça. Donc du coup, on va avoir par exemple beaucoup de campanules, les marguerites, les leucanthénums qui ont certes pas la même grosseur que les marguerites horticoles, mais qui ont le mérite d'être des marguerites endémiques, qui sont bien adaptées à chez nous. Voilà, j'essaye aussi un petit peu des choses plus qui font un effet un peu de graminée, qu'elles en soient ou pas. Par exemple, la lusule, la mélique ciliée, parce que ça aussi, dans les parterres, on aime bien aussi de faire des aspects un peu verdoyants. Et il y en a une partie que j'essaye de commencer à collecter en sauvage vraiment sur le Vercors, parce que le centre botanique collecte aussi beaucoup en Chartreuse et sur le Vercors, pour vraiment avoir des choses d'ici très endémiques, adaptées aussi au sol, même si le sol il varie du fond de vallée au coteau, il y a quand même des grosses variances. Par exemple, en local, j'ai collecté de la saponaire, des mauves, la lusula nivea, voilà, des silènes aussi, que je trouve que des fois on néglige un peu, qui sont sur les bords des chemins, mais qui sont très gracieuses et qui peuvent donner un peu de légèreté dans des parterres, voilà, etc. Pour les potagers, pour les aromatiques, ça va être les persils, cerfeuil et énormément de basilic, c'est très 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 prisé, voilà. Des choux, j'essaye de lancer aussi une pépinière de poireaux, il y a énormément de demandes pour les poireaux. Évidemment, énormément de tomates, même si c'est pas évident de cibler des variétés qui fonctionnent pour la saison assez courte chez nous. Donc ça, c'est pour les annuelles très potagères. Je fais aussi des fleurs qui sont des fleurs ornementales mais annuelles, mais qu'on aime bien aussi mixer dans les potagers, des capucines, des œillets d'Inde, des suzannes, voilà. Évidemment, j'ai oublié dans les potagères la grosse catégorie des courgettes. J'ai l'impression que je pourrais vivre juste en vendant que des courgettes, des cosmos et des basilics. Il y a énormément de demandes là-dessus et en même temps, je comprends parce qu'en effet, on met 2-3 pieds de courgettes dans un jardin, 2-3 pieds de blettes. On a une chouette production, évidemment beaucoup de salades, Des mesclins aussi, j'aimerais que les gens aussi découvrent un peu les mesclins variés pour agrémenter les salades, faire des coupes régulières. C'est vraiment excellent et comme c'est des petites pousses, c'est vraiment très riche. C'est souvent des moutardes, des brassicacées. Voilà, donc c'est vraiment pour les potagers assez classiques. Et après, pour les vivaces aromatiques, évidemment, thym citron, des sauges, des hysopes, des menthes, plusieurs espèces, variétés de menthes, ciboulette. Et puis après, des fleurs ornementales qui, quelques-unes se mangent, mais pas tant. Et des fois, je suis un peu réticente à communiquer sur la comestibilité. Parce que des fois, les personnes font des amalgames entre plusieurs variétés. Donc, des fois, je le dis, mais je suis des fois un peu frileuse. Mais du coup, dans les classiques des vivaces ornementales, on a tout ce qui est les œillets, les dianthus, ça c'est très chouette, les coriopsis aussi, c'est très très populaire. Les œillets, il y en a plein de sortes. Il y en a des plus ou moins hauts. Moi, un de mes préférés et qui marche très très bien, c'est l'œillet à delta. Donc il est rampant, il fait des petites feuilles d'un vert très foncé. L'avantage c'est qu'il est persistant, donc même en hiver il y a du feuillage. Ça, il n'y a pas beaucoup de vivaces à ces altitudes qui sont persistantes. Et il fait plein de petites fleurs roses très, très flashy, des fleurs d'œillet. Et puis il y a son pendant un petit peu plus haut, l'œillet mignardise Rainbow Loveliness, qui est très connu parce qu'il a les pétales effilochés. Ils sentent très, très, les œillets, sentent, les dianthus sentent très, très bon, très fort. Les coriopsis, on en voit souvent dans les parterres ou dans les bacs de fleurs des communes. C'est pareil, il y a plusieurs hauteurs, mais souvent ça fait 30, 50. Une fleur assez simple, souvent très jaune vif. Ça peut tirer sur le rouge. Des gaillardes aussi, qui sont souvent très populaires, surtout dans des jardins de, entre guillemets, de grand-mère. Il y a des gaillardes qui sont encore en place, qui sont magnifiques, comme un petit tournesol jaune. Je fais des échinacées pourpres aussi, très, très, très. Là, je pourrais en vendre aussi, j'en vends énormément. C'est vrai que c'est une fleur qui est magnifique, comme une, entre guillemets, une grosse marguerite pourpre. Et il y a son équivalent. J'avoue, j'ai craqué. J'aime bien faire plutôt, on va dire, les espèces botaniques, c'est-à-dire au plus proche, même si elles sont reproduites de l'espèce originelle endémique. Mais des fois, je craque. Et donc là, je teste l'échinacée purpurea, mais qui s'appelle le white swan. Donc, c'est-à-dire une variété qui est blanche. Voilà, pour ceux qui adorent cette fleur-là, d'avoir une autre coloris. Je fais beaucoup d'encolis. J'adore cette fleur. Ça fonctionne extrêmement bien ici. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour.
Et donc là, on est sous ta serre, on est au tout début du mois d'avril, au moment où on fait cette interview. Et donc là, on voit des plants devant nous qui sont encore assez petits, on les sent encore assez fébriles. C'est quoi le rythme, les saisonnalités pour tes plantations? Est-ce que tout se fait au même moment? Est-ce que c'est réparti dans l'année? Si tu devais détailler la saisonnalité de ton métier.
Oui. Il y a tout un pendant hivernal et de début d'année qui est caché, qui est grosse partie de planification, précommande, discussion pour les semenciers, etc., souvent on cache, mais qui est une énorme partie du travail. Et après, les premiers semis, ici sur le Vercors, ils commencent que fin février, parce que ça sert pas à grand chose de s'énerver avant. Ce qui commence fin février, c'est les poireaux. C'est ce qui est vraiment très long. Et comme il y a une grosse demande sur le poireau, j'essaye d'en faire un calibre suffisant. Ça va pas être facile. Et sinon, après, tout commence plutôt au mois de mars. Parce que, pareil, il fait en fait trop froid avant pour s'énerver. Et puis, de toute façon, il serait prêt beaucoup trop tôt. Sur le Vercors, ça sert pas à grand-chose de mettre des annuelles, en tout cas, avant mi-mai. Voilà. Ça risque de geler et puis elles vont végéter. Donc, à partir du mois de mars, en fait, je sème toutes les semaines. Ça, c'est un parti pris. Il y a certains producteurs, productrices qui sèment plus, qui font des séries toutes les deux semaines. Moi, j'aime bien semer toutes les semaines parce que ça fait vraiment des séries très fraîches qui tournent et qui sont top de la forme pour les jardins. Et puis, il y a un pic, un volume de semis pour toutes les foires qui tombent au même moment, c'est-à-dire fin mai. Et tout le monde veut évidemment toutes les commandes que j'ai en avance. C'est tout pour fin mai. Et donc du coup là, on arrive la semaine 15, numéro 15, 16, 17, il y a un volume à assumer qui est énorme. Et après, je continue de semer jusque courant juin pour les retardataires qui veulent encore mettre quelques pieds. Et sachant que juin, c'est pas du tout trop tard pour le plateau parce que de toute façon, avant, il fait assez frais. Et je vends tous les plants d'annuels, c'est jusque début juillet. Et après vient la période où j'enchaîne en semant les vivaces, courant d'été et puis début d'automne. Pourquoi ? Bah, déjà parce que c'est le moment où je vais avoir le temps de m'en occuper. Avant, j'arrive pas avec les volumes d'annuels à faire. Et puis parce qu'il y a pas mal de vivaces, elles aiment bien une reproduction en fait des variations thermiques et ce qu'on appelle souvent la stratification qu'on peut faire artificiellement en frigo. Moi, je le fais à l'état naturel, c'est-à-dire dès l'automne, on va re-avoir des chutes de température. Évidemment, la luminosité qui rebaisse, la proportion de nuit qui va passer supérieure au jour. Et tout ça, ça influe et ça fait que des vivaces vont réussir à germer courant d'automne, voire début de saison entre janvier et mars, et que je vais pouvoir les repiquer et les proposer en vivaces.
Et c'est vrai que, ça, on en a peut-être déjà un petit peu parlé, mais il y a une importance, selon toi, quand on habite le plateau du Vercors, à prendre des plants qui ont été sélectionnés par quelqu'un comme toi, dont la démarche est de trouver des choses qui sont adaptées au climat local. Est-ce qu'un plant qu'on va prendre chez toi va mieux résister au climat qu'un plant d'une grande firme agro-industrielle ?
Évidemment, j'ai envie de dire oui. Après, il y a tellement de facteurs des fois qui rentrent en ligne de compte dans un potager que des fois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a joué. Mais globalement, en prenant un plant, que ce soit chez moi ou chez des collègues qui sont du plateau, il y a aussi plusieurs maraîchers, maraîchères qui, en début de saison, font du plant. C'est que, hormis, comme je disais tout à l'heure, la levée, le semis, après, le plant est à température d'ici, certes sous serre, parce que évidemment, sinon, on n'arriverait pas à avoir de production. Mais quand même, ça veut dire qu'on va avoir des nuits où ça redescend, moi, jusqu'à très tardivement, jusqu'à courant mai, ça frôle les zéros sous serre. C'est-à-dire que c'est quand même un plant qui a eu l'habitude de ces variations, qui va retrouver après dans les potagers, jusqu'à tardivement, on a des nuits fraîches, quoi. Donc, entre un basilic, par exemple, ici, qui a eu l'habitude de ces variations, et un plant qui a été, si je prends vraiment l'opposé de moi, une serre chauffée, produit un peu trop tôt en saison aussi par rapport à ici, c'est sûr que si vous le mettez direct sans adaptation dans un jardin, il va vraiment pas apprécier. Et après, sur les choix des variétés, chaque année j'essaye d'affiner, mais c'est sûr que je fais quand même des variétés que notamment que j'ai vu chez du coup mes anciens employeurs Carla et Etienne au Cisampa, qui sont maraîchers sur le plateau à quasi 1000 mètres. C'est sûr qu'ils font des variétés où le cycle est correspondant, notamment par exemple pour des courges, des cycles courts en fait, sinon on les récolte jamais à maturité quand le froid revient. Donc c'est vrai qu'en venant chez les personnes du plateau, normalement pour la plupart vous avez l'assurance, moi, en tout cas chez moi vous avez l'assurance que je vous propose des choses dont le cycle c'est à peu près cohérent, vous allez pouvoir en récolter. Pour les tomates, je propose quasiment pas de très grosses tomates ici, à part sous serre, ça va pas fonctionner, donc j'en propose des un peu grosse, mais je sais que ça fonctionne. Par exemple, la kakikoin, ça fonctionne ici. Et sinon, j'essaye de convaincre les gens d'être plutôt sur des tomates de petit calibre. C'est beaucoup plus, pour ici, c'est beaucoup plus satisfaisant et on est sûr, on peut avoir une récolte prolifique de petit calibre. Voilà, sur les salades aussi. Voilà, plein d'essayer d'être vraiment cohérent par rapport à nos climats frais et la saison qui est courte, quoi.
Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu viens pointer, de dire qu'en fait vous êtes plusieurs sur le territoire du Vercors à faire ce métier. Et en fait, on parle souvent dans l'alimentation de chercher des circuits courts. Donc on pense aux nombreux éleveurs, aux maraîchers, aux maraîchères. Mais en fait, c'est vrai qu'on pense un peu moins souvent aux plants. Ça fait aussi partie de ces circuits courts que d'aller directement sous une serre acheter son pied de tomate, son pied de basilic, son pied de persil. du coin, quoi. Ça fait aussi partie de cette économie locale.
Oui, carrément. Et moi, je le vois qu'il y a des personnes qui, par rapport à ce qu'on disait juste avant, puisque j'ai pris la suite de la production de Séverine, qui faisait déjà cette production d'annuel et de vivace, s'ils viennent voir les personnes du plateau, pour certains, c'est parce qu'ils ont déjà testé de prendre des plants en plaine. Ils se sont rendus compte que ça fonctionnait quand même souvent moins bien. Mais ça veut dire aussi... à 99% de la clientèle, moi je trouve qu'ils sont géniaux parce qu'ils sont très compréhensifs. Ça veut dire qu'on peut avoir aussi des aléas, contrairement à une énorme pépinière ou des horticulteurs de la plaine. Bah, on peut avoir de la casse, on peut avoir des soucis. On peut pas non plus avoir toutes les variétés possibles et imaginables. Donc faut, c'est comme bah, pour des, quand on va sur un marché acheter aux maraîchers, maraîchères locaux, on n'a pas tout tout le temps. Donc ça demande un peu de flexibilité, mais globalement, on a quand même largement le choix pour les potagers du coin. Je dis « on », les différents collègues et moi-même. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on est souvent, en tout cas pour l'horticulture, la production de plants, on est au même prix, voire des fois moins cher que, je vais pas citer le nom des très grands groupes de jardinerie, mais quand je vois combien sont vendus des pieds de basilic, je me dis qu'en plus de faire une production qui se veut réfléchie, on est moins cher, quoi. Du coup, je ne compare pas par rapport à des très très grosses structures horticoles qui ne sont pas en bio. Là, c'est sûr que eux, sur des semoirs automatisés avec des terreaux qui ne sont pas bio, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Mais sur les jardineries qui ont des grosses marges et sur voilà, sur certaines productions, on est complètement cohérent en termes de prix.
Donc c'est aussi déconstruire une idée reçue qu'on a souvent dans notre tête que ça va coûter plus cher. Mais c'est pour ça que c'est super de venir discuter avec vous, les producteurs et productrices du coin. Et donc comme on le disait, tu travailles de manière biologique, tu as le label bio. Et en fait, quand on est paysanne sur le plateau du Vercors, c'est aussi être exposé aux aléas. Donc tout à l'heure, hors micro, tu me parlais de ravageurs, de petits pucerons, de petites mouches qui viennent un peu perturber ton activité. Il y a aussi les aléas climatiques. Comment est-ce qu'on peut s'adapter à ça? Est-ce que tu mets en place des stratégies? Est-ce que c'est un apprentissage permanent? Comment ça se passe pour toi?
C'est vrai que c'est un apprentissage permanent parce qu'en vrai, je suis ma troisième année à mon compte. Donc en fait, je suis encore novice. J'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Et du coup, déjà, j'ai fait le choix pour les germinations, les démarrages, d'avoir quand même sur trois tables, des nappes chauffantes. C'est juste pour le démarrage. La serre, elle n'est pas chauffée. Mais sinon, en fait, j'avais trop d'aléas. Il suffit que pendant 3 jours, au stade critique, il fasse pas beau. La température n'est pas suffisante et la graine pourrit. Et j'avais des plaques et des plaques et du terreau qui n'est pas la chose la mieux sourcée, même en bio, à foutre au compost. Donc, ça ne m'allait pas non plus. Donc, j'ai fait ce choix qui est quand même le choix de 90% des producteurs, productrices de plants. En fait, on fait les levées ou en chambre de germination ou sur nappe. Et après, du coup, de toute façon, j'ai pas la place. Donc, il faut forcément qu'elle soit sous serre 7, certes. Mais la serre, par exemple, la nuit dernière, c'est encore descendu à moins 2. Donc, ça veut dire que je les mets au sol. Je compte sur l'inertie de la serre, mais qui est pas si élevée que ça, en fait. Et après, évidemment, c'est des voilages pour la nuit et on croise les doigts, quoi. Voilà. J'ai des collègues qui travaillent aussi, c'est très courant, sur couches chaudes, c'est-à-dire du fumier. Bon, il faut avoir du coup une source de fumier. Je pourrais, dans les collègues aux alentours, en trouver, mais c'est quand même assez fastidieux, surtout en vigilance de température. Ça peut monter extrêmement vite. Ça a l'avantage, ça peut faire de l'inertie sur toute la serre. Ça peut monter extrêmement vite en température. Ça peut faire des dégagements aussi de gaz qui peuvent du coup anéantir plein de plaques en une nuit. Et j'avoue, comme il y a beaucoup de stress lié aux conditions météo, etc., dans ce métier, j'ai décidé que je consommais un peu d'électricité, mais que j'assurais le coup des germinations. Voilà.
Et côté ravageurs, du coup, c'est quoi les ravageurs à ce moment-là de l'année? Parce que c'est vrai qu'on voit pas encore beaucoup d'insectes début avril, mais finalement, il y en a quand même.
Eh ben, en vrai, vu que du coup j'ai commencé à me poser des questions sur, bah forcément, même si on est sur une toute petite production, c'est une monoculture sous serre avec plein de pots les uns à côté des autres, donc c'est quand même très favorable pour que certains insectes qui sont malheureusement pas désirables dans ce genre de production, même s'ils sont éminemment ultra importants dans la nature, mais là on essaye en tout cas de limiter leur impact. Et du coup, ben, comme je me posais beaucoup de questions sur certains insectes que j'avais, je me suis mis vraiment ces derniers temps beaucoup à quatre pattes. Et non, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'insectes même dehors. C'est assez incroyable. Déjà, en fait, faut apprendre à les reconnaître. Et ça, c'est un gros boulot. Un des gros classiques en horticulture, en pépinière, c'est la mouche du terreau. Donc des petites mouches qui pondent dans les pots et qui font des petites larves qui mangent les racines. Moi, j'assèche énormément les pots. Elles n'aiment pas pondre dans des pots où il n'y a pas assez d'humidité. Du coup, c'est un énorme travail d'être toujours vigilant, toujours irrigué par le dessous, que ce qu'il faut et jamais trop. Et ça, c'est vrai qu'en plaine où il fait plus vite chaud, je pense qu'ils viennent plus vite à bout des mouches du terreau et ils peuvent se permettre d'avoir des serres entières arrosées par le dessus. Ça leur demande moins de travail. Et nous, ici, avec les taux d'humidité et les températures, si je fais ça, mais je n'ai pas de production. Et du coup, faut apprendre à faire la différence avec du coup d'autres insectes qui sont souvent parasites ou donc ce qu'on appelle des auxiliaires. Parce qu'on, nous, humains, on les a classés ceux qu'on aime bien, ceux qu'on n'aime pas. Donc ceux qui sont plutôt qui mangent ces insectes qu'on apprécie moins. Donc faut apprendre à les reconnaître pour les entretenir et surtout pas par inadvertance ou quoi les faire fuir ou voilà donc ça j'essaye d'apprendre autant que je peux mais c'est très compliqué et du coup comme beaucoup en bio si vraiment on n'arrive pas à gérer par toutes ces petites méthodes et dès que la température est suffisamment clémente on achète des auxiliaires en fait donc qui sont les mêmes insectes qu'on a à l'état naturel mais dans un grand nombre et du coup ça permet de recoloniser dans une serre s'il n'y en avait pas assez et de venir à bout. Par exemple, il y a des guêpes parasitoïdes qui s'attaquent beaucoup du coup aux petites larves qui vont pondre dessus, parasiter les larves des pucerons, éventuellement ça peut fonctionner sur certaines pour la mouche du terreau. Voilà, trouver des astuces comme ça bio quoi.
Où est-ce que tu vends tes productions? Est-ce que tu vends à la ferme? Est-ce que tu vas sur des marchés sur le plateau du Vercors? Est-ce que tu peux nous détailler les différents points de vente?
Donc il y a 2 jours par semaine, le mardi fin d'après-midi de 16 à 19h, donc à la pépinière à Saint-Martin, et le samedi matin de 9h à 12h. Je fais aussi le marché de la Chapelle tous les jeudis matins. C'est un marché hebdomadaire qui marche très bien. Les gens ont l'habitude d'acheter des plants sur ce marché. Ces horaires d'ouverture commencent en avril, sachant que je propose que ce qui me semble cohérent pour le moment, même si par exemple j'avais des tomates courant avril sous la serre, sauf si quelqu'un insiste, ce qui est déjà arrivé, mais non, je propose là, si je propose en avril des vivaces, c'est des vivaces, elles ont passé l'hiver ici, il n'y a pas de souci de le mettre dans le jardin sur le plateau. Et je fais aussi des foires. Donc là, par exemple, le week-end du 11-12 avril, je fais la foire de Réaumont, qui est une foire aux plantes régulière depuis plusieurs années, avec plusieurs justement vivaciers. Mais plus localement, il va y avoir Châtillon-Saint-Jean. Il y a le comité des fêtes qui organise chaque année un marché aux plants et d'autres choses aussi le 19 avril. J'aurai surtout du coup des vivaces à cette époque-là. Et après, il y aura le 1er mai à Granges-les-Beaumont. J'essaye de faire une foire de plaine. Je verrai si je suis vraiment beaucoup décalée par rapport à mes collègues. Et après, plus en local, il y a la fête de la poule le 3 mai, voilà, où je vais aller également. Il y aura d'autres collègues comme Sophie Cohen qui fait du plan à Choranche. Et puis, il y a évidemment la foire de Lens qui est cette année le 24 ou le 25. Enfin, c'est toujours un dimanche en mai, qui est une grosse, grosse foire au plan. Je vous invite, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'horticulteurs, horticultrices qui viennent. Il y a beaucoup de choix. Et enfin, il y a évidemment la foire de Saint-Martin, toujours le 1er juin. Et ça, évidemment, c'est à domicile, donc je le fais. Voilà. Et il y a un peu des foires à l'automne pour les vivaces. Voilà. Mais ça, j'ai pas encore. Les inscriptions des foires se font toujours des mois en avance, mais là, j'ai pas encore les dates et les inscriptions qui sont faites. Voilà.
Et on a déjà fait donc l'interview de Aurélie Gachon du Parc naturel régional du Vercors qui nous a parlé de la programmation d'À tout bout de champ. Mmh. Donc c'est un événement que met en place le parc et qui a pour ambition donc d'ouvrir les portes de certaines fermes. Cette année, il y a 10 fermes qui sont partenaires sur tout le parc, le périmètre du parc naturel régional. Et donc l'idée, c'est une fois par mois d'accueillir le public, de les inviter à venir sur les lieux de production, de rencontrer les paysans, les paysannes. Et puis aussi de proposer des petites animations sur place. Et donc, toi, tu es partenaire de cet événement cette année. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui va se passer pour donner envie aux habitants, aux habitantes du Royan et du Vercors de venir te voir ?
Bah, tout d'abord, si je peux quand même repréciser, au début, je trouve qu'À tout bout de champ, c'est vraiment génial comme événement pour faire ouvrir les portes des fermes et des lieux de production. Moi, n'étant pas tout à fait sur un terrain définitif, j'ai hésité à répondre oui à la proposition. Je me dis que c'est quand même l'opportunité d'échanger et de discuter avec les gens sur les productions qui est faite. Donc du coup, À tout bout de champ, cette année, l'idée centrale, c'est de montrer comment on produit, ce qu'on fait déjà. Ça, c'est la base, faire une visite, faire découvrir l'activité. Et après, sont proposées plusieurs aussi activités, animations au cours de ces demi-journée ou une journée entière. Donc moi, ici, ça sera une demi-journée. Donc malheureusement, ici, il n'y a pas quelque chose qui est très populaire, qui est la traite. Il n'y aura pas de traite de plants d'encolis. Mais du coup, il y aura une discussion justement sur les choix qui sont faits, notamment autour de la semence, sur ce qu'on a déjà énoncé sur les plantes sauvages, les collectes de semences en sauvage. C'est encore à confirmer, mais j'ai un collègue paysagiste à Presles, Julien Gailledra. S'il était disponible, il peut venir nous parler de son activité, parce que c'est quelqu'un qui a une éthique assez particulière et qui est du coup très ouvert quand on lui propose des espèces plus botaniques ou sauvages. Et je le remercie pour ça d'ailleurs. Donc, j'aimerais qu'il nous parle de ça. Comment on fait pour aménager un jardin assez cohérent avec l'environnement et éventuellement, si possible, en insérant certaines sauvages ou botaniques. Voilà. Et puis après, il y aura une animation réalisée par Christelle Luçon, du coup autour de la reconnaissance de plantes comestibles sauvages sur le terrain autour de la serre. Donc en cueillir certaines, discuter autour donc de celles qu'on peut manger, etc. Bon, je voudrais pas trop dire de bêtises, c'est elle qui va être en charge de cette animation là. Et du coup, ça fait un bon lien avec du coup la production de sauvages, mais aussi de choses alimentaires pour les jardins de chacun. Et du coup, avec une dégustation, c'était aussi la manière de faire déguster des choses aux personnes, même si ici il y a pas de production, notamment de fromage. Voilà, ça sera peut-être moins sexy que du fromage, mais je pense que ça sera très intéressant, très, très chouette de découvrir tout ce qu'on peut manger à portée de main sans planter quoi que ce soit. Et ensuite, il y aura, en fonction du temps, probablement peut-être une discussion autour de la mare pédagogique qui a été mise en place à Saint-Martin en partenariat avec le parc, avec l'école et la mairie de Saint-Martin. Parce que c'est vraiment des zones de biodiversité qui sont primordiales. C'est à côté du terrain, donc je trouve ça chouette d'en parler, de le faire découvrir. Et probablement aussi, il y aura un moment conté, c'est un conte autour des sujets abordés pour mettre un moment un peu de poésie et qui peut parler aussi à petits et grands. Voilà, parce que on va beaucoup peut-être échanger. C'est vrai que la première partie vise beaucoup un public de jardiniers, jardinières qui ont envie de mieux comprendre les choix des semences, les plants, etc. C'est moins jeune public, mais à côté, il y aura quand même des animations de rempotage, de petits godets, de petites plantes, le conte, l'animation de Christelle Luçon qui se veut tout public aussi, voilà, pour que tout le monde puisse trouver son compte.
À spécifier que ce sont des événements qui sont gratuits, et ça, c'est très chouette aussi de le souligner. Et que vous pouvez retrouver donc tout le programme détaillé sur le site du parc naturel régional du Vercors et sur le site des offices de tourisme. Est-ce que tu peux nous rappeler quel jour ce sera pour toi ?
C'est le samedi 13 juin à partir de 14h, si je ne dis pas de bêtises. Voilà.
Et est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive jusqu'à ta ferme ? Parce que c'est vrai que la particularité aussi, c'est qu'on est juste derrière le village, on est à deux pas.
Pour ceux qui connaissent bien le coin, c'est simple, c'est à côté du terrain de foot, là, du City Stade, qui est le rendez-vous de tous les jeunes du coin. Donc il faut aller jusqu'au City Stade et puis se garer entre le City, le long de la route, et les dernières maisons, voilà, qui ce n'est pas chez moi, c'est des voisins, donc on essaye de respecter aussi le parking autour de chez eux. Et pour ceux qui connaissent moins, si vous arrivez du sud, donc plutôt du Diwa, du Royan, du tunnel des Goulets, à l'entrée sud de Saint-Martin, vous prenez la première à droite devant le local technique de la mairie. Et vous descendez la rue et vous allez voir que à nouveau sur votre droite, vous avez le terrain de foot qui est indiqué.
Et puis les serres qui sont juste derrière.
Et les serres, mais qui sont pas très grandes. Et du coup, des fois, de loin, en passant vite, les gens n'imaginent pas que c'est une production professionnelle. Voilà. Mais c'est qu'il y a plein de trucs qui sont dehors. Voilà. C'est tout petit.
Et donc là, on a donné les informations pour te trouver donc en présentiel, donc soit pour venir à tout bout de champ, soit pour venir lors d'une de tes ventes à la ferme. Est-ce que tu as un site internet ou il y a quelque part où on peut retrouver tes contacts, ton activité ?
Déjà oui, j'ai un site internet, mais qui malheureusement mon référencement n'est pas encore très bon. Mais si vous tapez les plans d'Adeline Saint-Martin en Vercors, vous allez tomber normalement sur ce site qui s'appelle les plans d'Adeline. Mais des fois, le plus simple, c'est du coup de passer par des sites qui sont mieux référencés. Notamment, je fais partie de Ferme du Vercors. C'est d'ailleurs à ce titre-là que je fais partie qu'on fait l'événement à tout bout de champ. Donc, Ferme du Vercors, qui est une association de producteurs-productrices du plateau et du Royan aussi, des contreforts, soutenus en partie par le parc. D'ailleurs, d'une manière générale, je vous invite à aller sur ce site-là où il y a une carte de tout le Royan-Vercors avec du coup des points de tous les producteurs-productrices en fonction de ce qu'ils produisent. Et évidemment, pour chacun, sont référencés nos horaires d'ouverture, nos sites internet, nos réseaux sociaux, si on en a, les productions, évidemment. Voilà, c'est probablement le plus simple. Et évidemment, j'ai un point Google Maps. Donc ça, pareil, si vous allez sur Maps, sur Saint-Martin-en-Vercors, vous allez trouver le référencement.
Et merci beaucoup pour tous ces détails, Adeline. Donc à la fois pour la présentation et la description de ton activité, qui est quand même singulière. On n'en parle pas souvent sur les ondes de Radio Royan-Vercors. Et puis pour ce détail aussi d'animation avec l'événement à tout bout de champ. On va se charger côté Radio Royan-Vercors de vous rappeler en temps et en heure les différentes activités qui vous seront proposées dans le cadre de cette programmation. Et puis on va mettre en lien sur notre site internet ton site à toi, les différents contacts. Comme ça, si vous êtes en train de préparer votre potager avec le printemps qui arrive, vous saurez où vous rendre. Merci beaucoup Adeline pour ce temps et à très bientôt sur les ondes de Radio Royan Vercors.
Merci beaucoup d'être venue surtout et merci à la radio de soutenir la production locale.